Au-dessus des couveuses et croises de lugubres et funèbres verseuses qui se plient. Pendant que nos sorcières sanitaires et barbues centrifugent nos clones au fond de leur cornue qui se plient. De l'école brûle un tableau noir, une tresse est brisée en écrivant espoir qu'ils se quittent. Déjà les mitrailleuses ont regagné leur nid, seule une bouche bourdonne sur la classe endormie qu'ils se quittent. Qu'ils se quittent. Les guerriers de l'absurde et de l'enfer affrontent les délices de la mort sous le fer de la honte qu'ils se quittent. Aéroport ou Mozambique City, le sang des tout petits coule aux surprises parties qu'ils se quittent.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette à peu près 15e émission de Livre en Lutte. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du livre Vert aux Gilets jaunes. Alors c'est le parcours de vie de Véronique Tahar, qui est la grande figure des Gilets jaunes à Vitry-sur-Seine, mis en écriture par Jeanne Desaubry, qui est romancière et éditrice, mis en écriture après une série d'entretiens, et puis on a aussi Mireille Brunet, qui est dans le livre également. Alors c'est l'occasion de parler des Gilets jaunes et aussi de parler de l'activité des assos et de tout un tas de mouvements informels qu'a pu rencontrer ou créer Véro. Alors moi, je voulais parler un petit peu, avant de donner la parole à mes invités, de la genèse de ce livre. Alors tout commence lors du festival du roman noir et social de Vitry-sur-Seine, lancé par l'association Livre en Lutte. Donc en 2022, Véronique apparaît et puis elle nous dit qu'elle voudrait bien raconter son parcours. Et donc il y a une trentaine d'auteurs. Et puis finalement c'est Jeanne qui dit que ça l'intéresse. Elle organise un certain nombre de rendez-vous. Et puis voilà, le livre est sorti cette année. Avec une petite intro par Robert Sequela, donc le président et le fondateur de Livre en Lutte, et aussi d'Abdelkrim Hachemaoui, qui est le directeur du Centre culturel de Vitry et qui nous a aidés à monter ce projet. Alors, eh bien, on va commencer. On va parler donc au début, je pense, un petit peu, le tout début du bouquin, c'est quand même une jeunesse assez difficile. Tu avais des petits problèmes familiaux qui sont à la cause de tout, en fait. Véronique.
Bonjour à tous et à tous. Oui, mon bouquin explique un peu mon parcours d'enfance chaotique, totalement, et qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore beaucoup, car je vois beaucoup dans ce monde, il y a autant de souffrances dans la jeunesse, qui subissent à peu près, ça soit une maltraitance familiale ou autre. Et je voudrais en parler beaucoup, de dire qu'il faut se battre, il faut que ces jeunes se battent, du principe qu'on peut y arriver. S'écouter les uns les autres, parce que bah, j'ai eu une période qu'on m'a donné, on m'a tendu la main, et je voulais pas écouter, du fait je voulais rester dans mon opinion, de ma violence, de mon exclusion de la société, se sentir un parasite, de ressembler à rien, d'être en rien, qu'une merde, faire un bout de trottoir, un bout de carton et terminé, quoi. Et du fait qu'on m'a tendu la main, je l'ai pris en compte bien longtemps après, quand je suis devenue maman en 1990. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai eu peur. J'ai eu peur de beaucoup de choses, de l'éducation, l'amour, les Noëls, les anniversaires. Donc il y a une personne, j'appellerai D parce que voilà, je ne dirai pas son nom, qui m'a appris tout ça, à donner de l'amour à mon enfant, donc à ma fille, Christelle. Elle s'appelle Christelle, ma fille. Et de savoir servir son anniversaire des Noëls. Et de me sortir de cette rue. Parce que Marie, j'avais Christelle, la violence était en moi. Pas la violence envers mon enfant, mais envers la société que je ressentais envers moi. Elle était encore là. Et j'ai mis un peu de temps quand même à réaliser. J'ai dû attendre que ma fille, elle a 7 ans, pour réaliser qu'en fin de compte, tout doucement, j'ai pris le chemin des gens qui m'ont tendu la main. Voilà, donc, les bons conseils. Même si on n'en veut pas dès le départ, logiquement, on les reprend. C'était quelque part dans ma tête, fermée, la porte fermée, mais je l'ai rouvert cette porte, et j'ai pris ses conseils pour continuer à avancer. Voilà ce que je peux dire sur mon enfance.
Donc Véro, il faut partir du début. En fait, tu vis dans une famille avec une maman qui a des problèmes psychologiques.
Qui était bipolaire, donc c'était une bipolaire. Dès le départ, on avait un médecin de famille, qui lui donnait toujours les mêmes médicaments, les mêmes traitements. Je pense qu'elle-même, elle a dû subir dans son enfance. On ne sait rien, c'est beaucoup caché. Et le problème, c'est qu'on subissait tous. Mon papa aussi, il le subissait. Ma sœur et moi, on l'a beaucoup subi. Différemment, d'un sens différemment. Et souvent caché de l'une de l'autre. Donc, quand ma sœur, elle pensait que j'étais la chouchoute. Et en fin de compte, non, j'étais pas du tout la chouchoute. Autant que moi, je pensais que ma sœur était la chouchoute. C'était un cercle vicieux que ma mère nous a fait subir parce qu'elle était bipolaire aiguë. Et c'est une femme qui a pris toujours les traitements pendant des années, toujours les mêmes traitements. Les médecins de famille, ils le savaient, mais l'époque d'avant, on prenait pas trop compte des choses. Ce qu'on subissait, nous, personne s'en occupait parce que la loi était pas là encore pour l'enfant. Et ça s'est aggravé d'année en année. J'ai vu ma mère se dégrader totalement de cette maladie. Et elle-même ne s'en rendait pas compte parce que quand on lui disait, elle nous regardait qu'est-ce que tu nous racontes ? C'était très compliqué. Une fois dans ma vie, je vais vous dire quelque chose que je ne l'ai pas marqué dans mon livre. Comment ? J'ai dit à ma mère que je l'aimais. Et ma mère, elle a eu peur. Elle a ouvert ses grands yeux en disant, qu'est-ce que tu m'as dit là ? Et c'est pour vous dire dans lesquels extrêmes qu'elle était en souffrance.
Donc en fait, voilà. Il faut expliquer que ta maman, elle vous interdisait de jouer,
oui,
de faire vos devoirs, elle pouvait vous insulter, elle pouvait être violente.
Exactement, nous interdisait totalement de l'école. On avait l'école, mais il ne fallait pas faire les devoirs, parce qu'on déchirait les livres, les cahiers, arriver à la maison. Mon père, c'est un homme qui était toujours sous, donc on n'avait aucune vie. Donc l'école, c'était l'échec scolaire total. Pour l'une et l'autre, pour moi et ma sœur, c'était totalement l'échec. On était souvent enfermés dans notre chambre. Le soir, si on voulait aller uriner, comme tout le monde, aller aux toilettes, on ne pouvait pas nous enfermer dans notre chambre à nous faire pisser dans de la dinette. On prenait des coups, des insultes, de toutes sortes d'insultes qu'un enfant ne supporterait pas. Des coups aussi, c'était une famille dramatique. On n'avait pas de Noël. On n'avait pas. C'était catastrophique.
Alors, les cahiers déchirés, les cahiers déchirés, il faut expliquer en fait que si jamais vous sortiez les cahiers, c'est ta maman qui les déchirait en fait.
Alors, oui, exactement. Quand on sortait les cahiers, donc on était dans une entrée, on avait un genre de petit bureau, et dès qu'on sortait les cahiers ou les livres, c'était déchiré. Elle ne voulait pas voir les devoirs, elle ne voulait pas. Tout ce qui se passait, c'était l'école. Le restant à la maison, c'était pas ça. Elle déchirait tout. Donc, elle nous a cassé notre réussite de la vie. Parce que moi, j'avais un projet. Mais elle nous l'a interdit, imposé, en déchirant les cahiers. Quand elle était en crise, on prenait des coups. Il y a plein de choses qui fait que... c'était vraiment l'extrême. J'ai du mal à en parler un peu à la radio parce que ça remonte et c'est un peu la souffrance.
D'accord. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait...
Pouvoir en parler de tout ça.
ton papa buvait, mais c'est, d'après ce que j'ai compris dans le livre, en fait, c'était quelqu'un d'un petit peu faible, qui était malmené par sa femme et qui s'est réfugié dans l'alcool. Ça vient aussi... C'est toujours le même problème, au départ, c'est quand même ta maman. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es à 13 ans, en 6e ?
Eh ben, quand je suis en 6e, ce qui se passe, déjà, j'étais une personne... Déjà, l'école, c'était pas ça. Voilà. Souvent, elle récoltait les affaires de sa maman, donc de ma grand-mère, qui ne servait plus, donc elle nous les mettait, elle me les mettait pour aller au lycée. Mais c'était une époque, je me rappelle, c'était la mode des jeans élastiques. Je sais pas si vous vous rappelez les années 80, c'était, voilà, les belles modes, quoi. C'était, ben moi, j'étais habillée avec des affaires de grand-mère. Donc souvent, quand j'allais à l'école, on se moquait de moi. J'étais toujours le vilain petit canard du fait là-dessus. Et voilà, donc, mais j'avais une amie qui s'appelle, je dirais pas son nom, c'est M, qui habitait à Balzac et qui me disait, viens Véro, il n'y a pas mes parents, ils sont au travail, je t'emmène, je te prête des affaires. Donc elle me prêtait des affaires pour rentrer au collège par la suite, et le soir quand je ressortais, je remettais mes affaires de mémé.
Et donc en sixième, ta mère te met dehors en fait.
Voilà, ma mère en sixième, déjà eu un échec scolaire total, et un jour ma mère était en crise et elle m'a mis dehors. Voilà, c'était comme ça, en m'insultant de pute, enfin, tout ce que vous voulez. Et elle m'a mis dehors. Donc, je me suis retrouvée à la rue. J'habitais à Gabriel-Péry, tout enfant. Donc, la seule gare qu'il y avait à côté de moi, c'était la gare des Ardoines. Donc, je m'avance vers la gare des Ardoines. Je monte dans son RER. Et je descends à la gare Montparnasse. Et le parcours démarre de là, de l'abandon. Se retrouver seul. Pendant longtemps, hein, c'est pas d'un jour qu'on est tout seul, on tourne en rond, on commence à avoir faim, on pue, on est crade, on se sent pas bien. Et de là, on rencontre des gens qui sont dans la même situation que la mienne, que ça soit adulte ou enfant. Et après ça, bah, on reste un groupe, on reste ensemble. Voilà, des gens qui reflètent pas vraiment la société.
Alors toi, tu tiens à faire la différence entre, dans ton livre, entre clochard et SDF.
Alors, le clochard, c'est une personne qui a des années dans la rue déjà, et dans le temps, il n'y avait pas vraiment les structures pour les recevoir. Et le SDF, c'est ça qu'on peut quand même trouver encore, pas tout le temps, mais des places dans des structures spécialisées pour les familles ou pour les personnes seules. Voilà, que le clochard, lui, ça fait 40 ans qu'il dort sur le même trottoir, il reste sur ce trottoir-là. Voilà, il n'aura pas cherché le 115 ou autre pour pouvoir avoir un lieu. Voilà, donc c'est vraiment la personne qu'on laisse vraiment de côté. On ne s'en occupe pas.
Donc tu dis que, en fait, dans ce milieu-là, tu commences à avoir un caractère un petit peu dur.
Oui, par la suite de toutes sortes de violences que je n'ai pas indiquées dans mon livre, que je ne dirais pas non plus à la radio. Ceux qui ont l'imagination peuvent bien imaginer. Donc la violence des hommes, oui, je l'ai subie. À la force d'être violenté par tous les termes du sens, on devient nous-mêmes violents sur soi-même, parce que les gens se demandent pourquoi j'ai mérité ça, pourquoi nos parents, ma mère même pas. Et aussi... la violence des autres dans la rue, donc une gamine qui n'a rien, qui est crade, on peut imaginer la violence qu'on peut subir d'autres personnes ultérieures qui sont aussi de rue. Voilà. Donc alors, je deviens méchante envers la violence tellement subie que je suis devenue méchante envers moi et vers d'autres. Donc ma violence, j'avais aucun dialogue avec les gens. Juste qu'on m'agressait la parole, la violence en moi, elle était là. J'avais la haine, j'avais la soif de la violence. Voilà, je me suis dit, c'était moi ou eux. À chaque fois, c'était un épisode comme ça, tourné dans ma tête, et voilà quoi.
Donc dans le livre, ce que Jeanne a écrit, c'est « À force d'agression, je n'avais plus confiance en personne, donc j'agressais en premier pour ne pas l'être. »
Oui, c'est tout à fait ça. Donc comme je dis, dans toute forme de violence... Oui, j'avais peur des personnes. J'avais, comme je le dis, hein, J'ai eu peur qu'on m'agresse avant, c'est pour ça que je dis dans mon livre que j'étais la première à agresser. Mais ça a duré longtemps, les agressions. Même ayant ma fille en 90, ça a duré assez longtemps. Les agressions, j'étais une femme qui se battait beaucoup. La peur de l'homme surtout, sur beaucoup de points.
Bon, on verra un petit peu après, au moment où tu tombes enceinte, et effectivement, tu te demandes comment... Tu penses que tu n'as pas les éléments pour pouvoir élever un enfant, et heureusement, tu vas tomber sur une péricultrice qui est particulièrement intéressante, avoir et c'est ça aussi qui va t'aider.
Avant la péricultrice, j'avais déjà une personne qui m'a expliqué, déjà, et puis Madame D, et j'ai eu aussi Madame, une péricultrice aussi, que j'ai gardée pendant des années, qui s'occupait de mes 4 enfants petits, avec moi, qui m'a beaucoup aidée aussi à comprendre l'enfant, donner l'amour, tout ce qu'on pouvait faire, les anniversaires, les Noëls, comment les habiller, comment leur donner à manger, les changer, le bain, tout ça, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée.
Alors, je reviens un petit peu en arrière, on va faire ça dans le sens chronologique. Donc, en fait, t'es dans la survie, donc t'es amené de temps en temps à voler des vêtements pour pas avoir froid l'hiver, etc. Et il y a un petit épisode tragicomique, parce que pour les chaussures, en fait, les marchands, pour pas se faire voler, ne mettent que les chaussures du pied droit. Donc, tu voles, malgré tout, des chaussures du pied droit, et donc tu te retrouves à marcher en canard.
Oui, tout à fait. Parce qu'à Paname, donc à Paris, c'était comme ça. Ils avaient les étalages dehors et c'était tous du pied droit pour pas se faire voler leurs chaussures. Du fait que les miennes, étaient plus que pourrites, hein, je peux vous dire. J'ai volé des chaussures pied droit et je peux vous dire, c'était même un peu trop petit pour ma taille. Mais je les ai quand même mis au pied car je n'avais pas le choix du tout de porter des paires de chaussures. Voilà.
Alors, à 15 ans, tu es placé en foyer. Je crois que ça ne se passe pas forcément très bien.
Je suis partie au foyer Le Mans. C'était au Mans, au centre-ville. Et c'était un truc très religieux. Le directeur lui-même était très religieux. Et on avait des éducateurs. Et dedans, il y avait déjà l'école. Donc, une école basique. Hein, c'était les petits, les grands mélangés. Et on n'avait qu'une prof à cette époque-là. Et moi, l'école, ça m'intéressait pas, puisque l'école, pour moi, c'était un point négatif, puisqu'on m'interdisait pendant mon enfance l'école, de découvrir ce qu'on pouvait apprendre dans l'éducation, pour nous aider dans l'éducation, pour nous apprendre à grandir et à nous aider plus tard. Donc, j'étais pas très intéressée, j'étais beaucoup une fille qui faisait beaucoup le mur, et qui engrainait aussi des camarades de foyer aussi, qui étaient aussi abandonnés de leur famille, à faire le mur. Et quand on le rentrait ou quand on se faisait attraper, je peux vous dire que le directeur ne nous faisait pas de cadeau, car on subissait autant la souffrance corporelle. On se retrouvait souvent avec un bras cassé, des yeux verts noirs, voilà. Donc, voilà la vie que j'ai menée au foyer pendant un an.
Et là, on parle quand même des années 80, quoi. Donc
oui,
ça
les années 80, oui. L'enfant n'était toujours pas écouté.
On en était encore là, quoi.
Pour autant.
Alors toi, donc tu réagis toujours par la violence, et puis aussi, il y a une usure, et puis tu tombes un peu en dépression.
Oui, je tombe en dépression, j'étais jeune, et je dois y avoir 16-17 ans, je commence à me tailler les veines, à prendre les cachetons, parce que pour moi, la vie n'avait aucun sens, j'avais rien à m'attacher.
D'accord, et il y a des moments où tu retournes un peu chez ta mère. Et si tu veux, Jeanne, tu peux reprendre un petit peu, parce que je crois que...
Oui, elle est très émue.
Moi
aussi, je suis émue, parce que l'histoire de Véro ne peut que émouvoir. Elle a fait un lapsus tout à l'heure, quand elle disait « on m'agressait la parole ». Effectivement, toute sa vie, c'est ça, quoi. C'est une enfant jetée à la rue, agressée... et donc quelque chose d'inimaginable quand on a une enfance normale. Et ce qui m'a émue dans son histoire, c'est étant passée par toutes ces épreuves, après tout ce qu'elle a vécu, elle a dépassé ça, elle a une force en elle de vie extraordinaire. Et c'est pour ça que je me suis mis aussi au service de ce projet avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'empathie. C'est que Véro, c'est une femme comme c'est une femme, dans la situation qu'elle a vécue, ben, c'est une victime, mais elle refuse ce rôle de victime. Et quand elle me dit « mais moi j'étais une merde, j'étais rien », j'entends qu'elle a vécu des trucs inimaginables. Et dans ce qu'elle m'a raconté, on n'a pas mis tout dans le livre, et elle se protège aussi en mettant pas tout. Mais comment elle a rebondi, comment elle s'est... comment elle est d'un chemin solitaire de violence et de tristesse, elle arrive à la solidarité et au combat, ça c'est quelque chose qui pour moi est une leçon, une vraie leçon de vie.
Alors, je voulais revenir avant qu'on parle de ces rencontres. Donc en fait, il y a aussi des épisodes où elle retourne chez sa mère, et chez sa mère, c'est donner le change. Et en fait, les travailleurs sociaux se font complètement rouler. Et on croit toujours que c'est la faute de Véro. Et pour l'instant, pendant longtemps, la mère de Véro, en fait, elle paraît comme une mère, pas une mère modèle, mais comme une personne qui est toujours très soignée, etc. Ils comprennent pas ce qui se passe, en fait.
Bah, je crois que c'est la reine des apparences, la mère de Véro. Et que les travailleurs sociaux, on va pas leur jeter la pierre, mais quand ils arrivent dans une maison... où manifestement le ménage est fait, les placards sont pleins, la maman est pomponnée, on n'imagine pas un instant ce qu'elle peut faire vivre à ses enfants, puisque c'est une vraie maladie psychiatrique, cette femme. C'est pas un cas social, c'est un cas psychiatrique. Et Véro va passer, ensuite elle nous raconte qu'elle est replacée régulièrement de la rue dans un foyer, d'un foyer chez elle, puis de nouveau sa mère la chasse, mais elle s'empresse ensuite d'aller déclarer qu'elle est fugueuse, et donc c'est un cercle infernal qui va la mener comme ça jusqu'à l'âge adulte.
Voilà, l'astuce c'est qu'elle la déclare comme enfant fugueuse en fait. Et puis, on passe à la rencontre avec Michel.
Oui.
Alors, bon, tu as un certain bagage, donc tu es particulièrement méfiante. Je pense que ça n'a pas été très facile pour lui au départ. Tu ne l'as pas forcément accueilli très gentiment, alors que lui n'avait que des bonnes intentions, quoi.
Oui, tout à fait. Quand j'ai rencontré... j'étais revenue un peu sur Vitry et revenue dans la cité, là-haut, qu'il y avait les parents, et j'ai rencontré des gens qui me disaient... ils me demandaient si je pouvais dormir. Alors, je leur ai dit, nulle part. J'ai nulle part à dormir. Je repartais reprendre le train. Et de là, on m'a dit, non, je connais une amie. Bon, bref, on y va et tout. Et déjà, cette amie-là, je la connaissais de vue. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu Michel. Qui était là, et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, et toi? Parce qu'on s'est déjà vu à Germain-Defresne, parce qu'il y avait un oncle qui y habitait, et de temps en temps, ma cousine Nathalie, qui me descendait dehors, Michel était là, on jouait aux billes. C'est rare que j'avais le droit d'y jouer, d'être dehors, donc j'en ai profité un petit peu, et ça, j'ai connu Michel. Alors ça, je l'ai revu, donc là, on m'emmenait dormir, et puis... à un moment, j'ai dit, moi, je vais y aller, reprendre le métro à Ivry, pour retourner sur Paname. Et Michel dit, tu es qu'on t'accompagne, parce qu'il y avait aussi des amis avec lui, donc je lui dis oui, s'il voulait. Et arrivé là, il y en a un qui me propose déjà la botte, je lui dis non, donc je le recale. Le deuxième, c'est Michel qui arrive, oui, ce que tu veux, sortir avec moi, donc je lui dis non. Je lui dis non, je n'ai pas vu la violence que j'ai vécue, donc je ne voulais pas du tout... qu'on se casse quoi ensemble. Alors, et puis tout d'un coup j'avance, puis il se raccroche, il me dit s'il te plaît, puis d'un coup je me retourne, j'ai dit, t'as un coin pour dormir au chaud? De là il me dit oui. Bon, de là on arrive donc chez sa maman, qui m'a pas vraiment accueilli à grand joie, parce que moi je pensais pas qu'elle habitait chez sa maman. Donc et après ça on est resté amis, puis après ça d'amis on est devenus amoureux. Et après ça, il y a eu Christelle. Mais avant ça, je peux vous dire que ça a été un peu la galère, parce qu'il fallait que la maman, quand elle partait au travail l'après-midi, on allait demander la clé à la gardienne pour aller dormir chez sa maman, donc l'après-midi, et repartir avant qu'elle arrive du travail. Donc ça a été chaotique. Mais il m'a toujours été avec moi. Toujours, il était derrière moi.
Et vous avez... il y a une période de petits boulots très durs au noir que vous avez fait ensemble.
Oui, ça c'est le boulot, c'est en 90-91, Donc il avait déjà un permis poids lourd qu'il avait eu en prison bien avant qu'on se mette ensemble, avant qu'on ait le logement. Et il trouve un travail. Bon, le travail, ça a duré tant que ça a duré. Après ça, la boîte, elle s'appelait Du Son, la société, qui était rue Talma, et après ça, elle a fermé ses portes. Donc il s'est retrouvé sans travail. Et de là, on avait une camionnette, on s'est dit, bah tiens, on va faire la ferraille. Donc on a fait ferrailleur, on allait dans les garages, ramasser toutes sortes de ferrailles, hein, plastique, ferraille, pneus, pendant très longtemps. Aussi des sociétés aussi, qu'on nous appelait aussi de pouvoir débarrasser, ce qu'on pouvait débarrasser avec notre J7, c'est un J7 quand même. Et souvent, on m'appelait aussi l'été en me disant, voilà, on ferme le garage, mais il reste un ouvrier, ce qui veut bien nettoyer les camions de peinture, ce que je faisais bien souvent, mais sans aucune protection. Donc ça faisait toujours de 100 francs en plus dans ma poche, donc on arrivait des fois à 700 francs par jour. Vous voyez, c'était pas... voilà, on était contents, on avait une bonne journée. Mais on commençait le matin très de bonne heure, non-stop, on mangeait pas, hein, c'était... voilà, jusqu'au soir. Voilà, juste à temps que je récupère Christelle, parce que l'ami Christelle était en crèche. C'est la crèche municipale qui est vers l'école Paul-et-Loire. Elle était là, Christelle. Ben, donc on la déposait en crèche, de là on partait, on s'en rentrait, on se décrassait et tout. On se rhabillait bien, on récupérait notre fille Christelle.
Alors après, il y a un tournant, c'est-à-dire que tu tombes enceinte.
Oui.
Et c'est après que tu trouves, que vous trouvez votre appartement alors.
Quand je tombais enceinte, on l'avait été en mairie et on l'avait été voir l'adjoint au maire qui s'occupait des logements. Voilà, on lui explique la situation. Il m'a dit, inquiétez-vous pas, avant la naissance de votre fille, vous aurez un appartement. C'est vrai que j'étais hospitalisée quand même 2 mois au Norier parce que je perdais les os, donc ils m'ont maintenue au lit sur perf. Et entre-temps, Michel vient me voir, il me dit, ah, on a une réponse sur Balzac, est-ce qu'on le prend? Je lui ai dit, oui, on prend le logement. Et on a eu un logement une semaine avant la naissance de Christelle.
Je crois
qui est née le 17 août 90. Donc une semaine avant, on a eu le bail.
Et l'appartement se trouve en face de celui de ta mère, c'est pas ça?
Non.
Non,
non, c'est celui de Balzac.
D'accord.
En 90. Et en 97, c'est Gabriel Péri. Donc en face de leur escalier à eux.
Ok. Voilà. Et puis, petit à petit, tu fais un stage de mise à niveau pour retrouver un niveau scolaire. Ben,
c'est-à-dire que Michel, il travaillait chez ATM, il a fait beaucoup de travail transporteur, il travaillait, c'était l'entreprise privée qui livrait la poste, hein, donc son dernier travail, c'était ATM, mais il travaillait presque nuit et jour, quoi, c'était non-stop, et un jour, j'avais déconseillé de continuer comme ça. Il m'a dit oui, mais c'est un patron, il est gentil, tatati, parce que son frère tombait souvent malade, donc il fallait qu'il le remplace. Donc il n'avait jamais le temps de manger. Hein. Jusqu'au jour qu'il y a eu un accident, et il a tout perdu, tous ses permis, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, il s'est pas arrêté. Parce que ce qui s'est passé, le monsieur, c'était un jeune, il m'a dit, hein, il l'a doublé de gauche, donc ça a touché le porte-à-faux derrière du camion. Du fait, le camion, il n'a rien eu. Et lui, il l'a pas senti non plus. Mais le jeune, entre-temps, ben, il a fait son constat, être avec la plaque, il a tout perdu. Donc en arrivant là, il lui donne quand même pour ses acédiques, et au tribunal, on lui apprend qu'on lui retire totalement son permis. Voilà, pour pas savoir arrêter, mais il n'a pas pu le sentir. Voilà, un chauffeur polo, c'est très bien, si on le tape au porte-à-faux, on peut pas sentir la voiture qui tape, voilà. Donc arrivé là, bah, plus de travail, plus de boulot, RSA, et moi je me suis dit, je veux pas rester dans un milieu de rien faire, faut que je bouge. Arrivé là, je fais une remise à niveau. Donc je vais à Cachan, je fais ma remise à niveau, on propose mon niveau, c'était bien pour faire dans le milieu hospitalier, au milieu école ou autre. Alors moi, je préférais faire ASH. Donc j'ai travaillé le maths, le français, reprendre. J'ai même appelé les racines carrées. J'avais jamais fait ça de ma vie et j'ai appris et c'était vraiment super. J'ai redécouvert l'école avec une joie. Et pendant 6 mois, après ça, je partais à Champigny pour faire mon diplôme d'ASH. Et arrivé là, bon, on fait encore 6 mois, nanana, à Champigny, on fait des stages. Je l'ai fait à Paul Giroux, je l'ai fait beaucoup à Paul Giroux, on n'a fait qu'un seul stage, avec une promesse d'embauche. Bon, bref. Après ça, au bout de 12 mois en tout, ben, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu 14 sur 20, voilà, par le Greta. quand même, je le dis quand même, je parle de Greta. Et arrivé là, pas de boulot, donc je vais en intérim éco qui était à Choisy-le-Roi. Donc ils cherchaient des gens pour nettoyer à Montparnasse, le destin fait que, voilà, nettoyer les arrivées des TGV, le vent qui repart. Donc je me suis inscrite, j'ai été prise, on a fait une remise de comment on dit, de... excusez-moi, de... Oui, de sécurité, voilà, oui. Donc chaussures, casque et tout, nanana. Donc j'ai été prise, j'ai travaillé 3 semaines comme ça à Montparnasse, et arrivé là, je reçois un courrier de Paul Giroux, parce qu'entre-temps, j'avais quand même déposé mon CV, qui l'a invité, tout ça, et que j'avais fait en plus un stage chez eux qui a été bien été acquis, dans mon diplôme en plus, et de là, ben voilà, j'ai été embauchée, j'ai été prise, donc en CDD. Et arrivé là, entre deux, ben, on entend souvent Emile Bachot qui nous dit « un fonctionnaire sur deux ne sera pas remplacé ». Donc, ça a commencé là, et arrivé là, je me suis dit dans ma tête « la dernière arrivée, ça sera moi qui partira ». Et au bout de 6 mois, ben, ça a pas loupé, quoi. Au bout de 6 mois, on m'a dit « ben, du fait, voilà, quoi, au revoir, madame ». En fait. Et du fait que j'étais déjà malade en même temps, donc j'avais caché ça aussi, que j'étais malade, donc... quelque part, ça m'a ennuyé de partir de ce travail que j'aimais bien. Déjà, j'étais dans le milieu psychiatrie en plus, c'est ça qui est étonnant. Tout me rejoignait du fait. J'adorais, j'appréciais mes collègues, j'appréciais discuter avec des patients, moi, qu'on n'a pas le droit, logiquement, on dit, ah, ça va, bonjour, bonne journée, voilà, comment s'est passée la journée, mais qu'on n'avait pas le droit de. Mais moi, je dis, peu importe, on est des patients, même si c'est psychiatrie ou autre. On est tous des humains avant tout, hein. Donc moi c'était mon but, voilà, de... Voilà, je suis comme ça, je suis une femme humaine, il faut que je discute avec les gens, il faut que... voilà. Et au bout de 6 mois, ben, on m'a dit, au revoir, mais c'est madame, donc acédique. Donc j'ai parti à Choisy-le-Roi, aux acédiques, et de là, il fallait que je retourne à l'hôpital pour me faire payer mes acédiques par l'hôpital, milieu hospitalier, où c'est que j'ai travaillé.
Donc en fait, tu étais agent des... Travail. Agent des services hospitaliers, donc à Paul Giroux à Villejuif, c'est un immense hôpital psychiatrique. Mmh. Et puis il supprime 60 postes, et donc t'es viré. Et moi j'habitais en face de Paul Giroux, et il faut imaginer un immense domaine. Et depuis, il y a, je pense, à peu près les 2/3 du domaine qui ont été revendus, et dessus, ils ont installé des gros programmes immobiliers. Mmh. Voilà ce que deviennent les services publics.
Et la plupart est partie sur Clamart.
Alors, après, il y a une nouvelle ère quand tu te mets à l'associatif. Tu as travaillé dans pas mal de choses. Il faudrait parler de femmes solidaires. Il faudrait parler aussi des Sobargeaux. Et là, peut-être que Jeanne, tu pourrais nous...
Ah ben, les Sobargeaux, elle m'en parlait sans arrêt pendant nos entretiens. Elle me disait qu'il lui avait fait découvrir plein de choses, etc. Enfin bon, c'était... tout tournait autour de leur accueil, de leur chaleur. Et puis un soir, elle m'a emmené dîner chez eux. Ça a été un peu le coup de foudre pour moi, parce que je suis tombée sur une bande de fêlés adorables, très construits en même temps, au milieu de leur fantaisie, des gens qui amènent l'art contemporain dans la ville auprès des gens qui n'en avaient même pas aidé jusqu'alors, qui sont dans la convivialité, dans la chaleur. Et le cuisinier des Sobargeaux, Nash, c'est vraiment un type extra. Et l'histoire de la rencontre entre Véro et Nash, ben c'est en plein confinement. Il est cuisinier dans le 77 sur un camp qui accueille des gens sans domicile qui ont besoin de soins, de se reposer, qui ont besoin. Ouais, il y a déjà toute cette solidarité qui existe chez lui. Et donc quand il vient à Vitry, ben Véro et lui, c'est la rencontre qui va permettre peut-être à Véro de basculer vers ce qui moi m'a énormément ému. Je pense que ça participe beaucoup de son investissement actuel dans le théâtre, dont tu as certainement l'intention de lui faire parler ensuite, parce que ça, c'est tellement imprévisible tellement magique, moi je trouve ça absolument remarquable.
Je veux bien faire reparler des Sobargeau, donc il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Au départ, c'était un squat d'artistes, bon, qui a une autorisation d'occupation. Donc ils sont trois, on va dire. Donc il y a Rémi qui est l'artiste et qui dirige un peu tout ça. On a Olivier, le célèbre mixologue, et puis on a Nash. Et donc ils font pas mal de choses. Aujourd'hui, ça ressemble un peu à une MJC. Tu as des cours de yoga, tu as plein de choses. Alors Nash, il fait aussi de la collecte alimentaire. Et tu dis qu'ils sont très construits. Je connais d'autres circuits de collecte alimentaire. Nash, lui, il fait des SARFA aux entreprises qui peuvent déduire donc ce qu'il donne. Donc, il a de la qualité. Mmh. Ça fait une grosse différence. Et alors, pour la blagounette, un jour, il se retrouve avec 21 palettes de soupe chinoise. Donc... qu'en faire. Et là, c'est la mairie qui a prêté un site des locaux techniques, en fait. Et deux mois après, il se retrouve avec 30 palettes de soupe chinoise. Donc, en fait, lui, il est capable de fournir après à plein d'autres associations. Effectivement, ils sont assez balèzes. On va pas dire tout ce qu'ils font, mais ils organisent aussi des concerts. Alors, ça peut se passer au Kilowatt, encore un grand lieu très, très important à Vitry. Les concerts du Pont et du Punk, bah, c'est encore eux. Et puis, il y a aussi des artistes en résidence. Et là, on peut faire des rencontres. Parce que, donc, il faut imaginer, c'est un beau pavillon avec un long jardin. On peut manger là-bas le mercredi sur inscription pour 10 euros. On a toujours une bonne ambiance. Et puis, ça vaut le coup aussi quand il y a le vernissage et quand il y a l'artiste en résidence. Moi, j'ai fait des jolies rencontres, notamment Nicolas Schussmann. Et ouais, c'est un lieu très important, en fait, sur Vitry. Alors, après, il faudrait parler aussi des cœurs jaunes. Tu nous parles de ça ?
Oui. Donc, moi, j'étais... Déjà, j'étais ouvert mon collectif à Vitry. À Germain-Defresne pour pouvoir distribution alimentaire de ce quartier. Et j'avais Christophe qui est témoignage dans mon livre, qui venait m'aider et tout, puis je disais, il en reste encore, parce qu'on débutait donc, le monde, le temps que ça se fasse, qu'ils arrivent et tout, c'était un peu long. Donc Christophe dit, moi je connais des gens, ça peut peut-être les intéresser. Donc je dis, vas-y, on parle-en, puis on verra bien. Donc il est revenu en disant, ça les intéresse. Donc c'était à la pagaille. À la pagaille, il y avait déjà un petit groupe qui était gilet jaune, oui et non.
Donc la pagaille, c'est une ressourcerie, il faut
expliquer. Une ressourcerie qui est sur Ivry, voilà, et qui est très appréciée, qui font beaucoup de choses aussi. Et aussi, il y a aussi le coin cuisine, donc c'est quelque chose... qui est extraordinaire. Il faut vraiment aller voir la pagaille parce que c'est des gens qui font beaucoup de choses aussi. Donc
Là, en fait, j'ai pris les choses un peu à l'envers. En fait, il y a une grande date, c'est novembre 2018, c'est le début des Gilets jaunes, parce que c'est un peu le cœur du bouquin. Et toi, ça, tu y vas tout de suite, en fait, même si tu te retrouves un peu... Je veux bien que tu me parles de la première fois où tu es allé sur ton rond-point et surtout le lendemain où tu t'y es retrouvée toute seule.
Alors en 2018, donc j'étais avec Michel, avec mes enfants, on descend, j'ai dit, tiens, il y a deux gilets jaunes. Je me suis dit, ah, allez hop, il va chercher vite fait un gilet à feu vert. Donc j'étais à feu vert, j'étais pas cher à l'époque, j'étais à 2 euros et quelques maintenant. Je vous dis pas, le prix l'a augmenté. J'ai vu ça le soir, j'en ai rigolé d'ailleurs. Bon bref, donc on rentre et tout, puis je commence à faire à manger, puis il me dit, je vais mettre mon gilet, je vais monter voir. Il me dit non, j'ai si, je vais monter voir. Donc je monte, je dis parce que je veux savoir aussi pourquoi eux ils sont là. Donc ils sont là, ils discutent, ouais, nanana. Ces deux personnes-là, ils disaient, ouais, l'essence, tatati, tatata, on va tout péter, on va tout casser dans nos banlieues. Et de là, j'ai intervenu en disant, non, on casse pas le bien commun dans nos banlieues. Parce que c'est quand même des gens qui travaillent et qui payent les impôts. Il y a un super musée, donc le Malval. Donc c'est un point négatif. Donc ces deux personnes-là sont parties, sont jamais revenues. Donc c'était des gens qui étaient vraiment dans la violence. Des quartiers populaires, mais vraiment dans la violence. Et arrivé là, moi, le lendemain, je remonte toute seule. Hein. Je parle avec des gens, je parle, les gens m'écoutent, il y en a d'autres qui ne m'écoutent pas. Il y en a, voilà, qui me klaxonnent, d'autres pas. Ça dure 2-3 jours comme ça, puis d'un coup, je vois une personne, 2, 3, 4, 5 qui arrivent. Même des gens qui sont venus se nous déposer des bouteilles d'eau, de la nourriture, hein, quand même, je le dis, dès le départ. Aussi, donc, du fait, on est restés tous ensemble. Donc, on faisait des AG, tel jour, on fait des AG. Et voilà, on faisait le rond-point d'abord et les AG après, juste derrière. Bah de là, on a fait pas mal d'AG, donc c'était sur la réforme des retraites, les salaires, beaucoup sur la réforme des retraites et beaucoup d'autres aussi sur l'essence. Et moi, j'étais présente à cet AG et ça me mettait un peu en colère de penser qu'à sa personne. Hein, parce que le problème qui se produisait, c'était pas que l'essence et la retraite. C'était un grave problème qui se passait en France avec ce banquier qui était là au pouvoir, voilà, je peux pas dire président pour moi, excusez-moi, j'y arriverai pas. Donc pour moi, c'est un banquier, et voilà, donc une cuillère en or, et voilà. Et bah de là, moi, je dis, il faut faire de la solidarité, parce qu'il y a des gens qu'on ne parle jamais. Donc les gens qui sont à la rue, que ce soit des familles ou. Voilà, on n'en parle jamais de leur misère, parce qu'ils vivent plus que miséreusement. Que nous, on est plus, ils vivent beaucoup plus dans la misère que nous. Donc, bah oui, mais les retraites, oui, on est d'accord, on peut mettre ça, mais plus, il faut aller plus loin dans le combat. C'est toute une misère totale qu'il y a en France. Donc, il y a un moment, moi, ben, à la force d'ignorer, j'ai tapé un peu le poing sur la table, et là, on m'a écouté. Voilà. Et après donc, ça, en fait, j'ai dit, bah tiens, ça serait bien qu'on puisse faire un jour des maraudes. C'était parti comme ça, les conversations, mais en fin de compte, on n'avait rien pour dire, bah tiens, on a quelque chose pour préparer des maraudes, de distribution alimentaire, on n'avait rien. C'était que du pourparler à l'attendant. Et après ça, il y en a d'autres eh ben, qui sont partis, revenus, rentrés. Entre-temps, on commence à faire nos tracts contre tout ce qu'il nous proposait Macron. La loi Blanquer aussi qui n'était pas terrible non plus hein, au niveau scolarité, enfin tout ça. Et donc on a fait des tracts, tout ce qu'on était contre, tout ce qu'on ne voulait pas d'eux. Et les gens ils prenaient, ils nous applaudissaient, ils s'arrêtaient, ils klaxonnaient, d'autres nous fonçaient dessus. Hein, mais j'ai déjà vu me voir foncer deux fois dessus en voiture. Donc j'ai vu Christophe deux fois, il m'a dégagé du piéton. Donc on les invite, il m'a tiré en disant attention, voilà. C'était un grand combat. Et arrivé au cœur jaune, ben voilà, comme je dis, je suis arrivé à vouloir faire distribution alimentaire. Donc je rencontre Femmes Solidaires. D'abord je discute avec une personne, je dirais F, je discute, hein, elle m'a dit je vais peut-être voir que les Femmes Solidaires peut-être... Hein? Donc j'ai réussi à voir la salle, ça a été ok. Après ça, il y a eu Laurent Jeanne, donc AVS. J'ai dit voilà, mon but c'est ça. Donc ils m'ont livré, eux, les légumes. Ils sont descendus, ils m'ont livré des légumes et tout. Et après ça, j'en suis arrivé à NH, donc Sobarjo. Un jour, NH, il me fait... Il y a aussi Nouria, aussi, qui est venue aussi me livrer. Donc à récupérer en haut, donc il me livrait. Et Nash m'a dit ça, qui m'a parlé du fromage, en disant, voilà, on a du fromage, on le récupère. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit oui. Donc, arrivé là, eh ben, on a fait... j'ai récupéré pas mal de fromage. On a fait beaucoup de paniers par la suite. Donc, on était connus. On faisait 100 paniers par jour. Par semaine, donc le jeudi. Donc, voilà. Ou le samedi après-midi. Mais c'était beaucoup plus le samedi après-midi que le jeudi. Le jeudi, on l'avait fait une fois ou deux, mais on a préféré le faire plutôt le samedi, parce qu'on s'en dit, la semaine, les gens travaillent. Le samedi, les gens, il y en a peu qui travaillent. Voilà, donc un samedi sur deux, j'allais à la pagaille, faire la cuisine, tout ça, pour pouvoir acheter du matériel pour les maraudes aussi. Et le samedi après-midi, je faisais ma distribution alimentaire. Donc, à la fin, on arrivait à 100 personnes qui étaient... voilà.
Bien, bravo. Alors, dans le livre, il y a pas mal de pages, évidemment, sur les Gilets jaunes. Il y a aussi une deuxième partie, il y a une trentaine de pages qui renseignent sur l'histoire des Gilets jaunes. Dans cette émission, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les assos, parce que Véro, en fait, d'abord, tu n'avais pas beaucoup de liens avec la culture, et puis tu rencontres Mireille, qui t'emmène au théâtre. Et je crois que tu vas t'inscrire un petit peu à tout ce qui est gratuit au théâtre. Et finalement, tu, donc, allez-y, si tu veux parler, Mireille. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que Véro va s'inscrire à toutes sortes d'activités gratuites au théâtre. Et puis, je crois que il y a un moment, tu écris des choses, il y a quelqu'un sur la scène qui joue ton propre rôle sur la scène du théâtre. Et je crois aussi que tu as été figurante, il y a eu une pièce de Shakespeare, c'est ça?
Oui, j'ai eu un atelier qu'on m'a proposé au Théâtre Jean Bullard. Je leur ai dit oui, et donc on l'a travaillé, oui. Puis bon, c'est juste deux phrases à dire sur cette pièce-là quand j'étais sur scène, mais ça m'a donné envie de... Voilà, ça m'a...
Ça t'a fait bizarre de te voir
sur
scène.
Ça m'a fait du bien. Ouais, ouais. Ça m'a enlevé un peu, comment dire, un peu la colère que j'avais toujours en moi. Je me suis sentie libre. Libre comme un oiseau, c'était quelque chose de formidable.
Je me permettrai d'intervenir. Je suis Mireille Brunet.
Oui.
Je me souviens d'avoir tenté quelque chose vis-à-vis de Véronique parce que, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de très violent qui la contraignait à se taire. Et en fin de compte, je me suis dit que la pratique du théâtre et le lieu seraient propices au fait qu'elle se libère de cette contrainte. En fin de compte, je me suis dit, on essaye, on verra bien. Je pense que c'était un geste à faire. Et moi, je pense que l'art est une manière de pacifier les gens, que ce soit par la musique, par le théâtre, par la pratique théâtrale, puisque c'est le cas. Véronique pratique et commence à pratiquer. Elle a trouvé un morceau de maison au Théâtre Jean Bullard, qui justement a toujours été preneur depuis qu'il existe, du fait que les gens, ne pratiquant pas le théâtre et n'étant pas toujours spécialement cultivés pour faire ceci, s'intéressent à cette pratique. Moi, je n'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu et j'ai suspecté dans son livre, j'ai trouvé la confirmation de ce que je pensais. Mais en fin de compte, je me suis dit, mais je le fais et on verra ce que ça donnera. On verra en marchant. Et moi je dis qu'on a une chance énorme d'avoir ce théâtre et d'avoir ce tissu associatif qui permet que des gens comme Sobargeau, que des gens comme Livre en lutte, que tout le tissu associatif de Vitry permet de sortir des gens de leur marasme personnel. Et c'est le cas, c'était le cas pour Véro et elle en sort petit à petit. Moi, je tiens Véro pour quelqu'un d'extrêmement honnête. On a toujours été en bon terme et je peux même à la limite raconter la première fois que je suis venu sur le rond-point avec mon gilet jaune. Il était bien armorié aussi celui-là, il était bien écrit, très très expressif. J'ai engagé discussion avec ceux qui étaient là. Ceux qui étaient moins cultivés, ceux qui étaient plus tranquilles, ceux qui ne l'étaient pas, des hommes, des femmes, des jeunes et même quelques enfants. Et j'ai trouvé là une humanité qui me côtoyait depuis longtemps et j'étais extrêmement contente de trouver cette humanité. Je pense que Vitry m'a aidé à faire ça. Je suis très contente pour avoir fait ça. Mais c'est peu de choses. Et là, j'étais juste le chauffeur.
Bon, c'est vrai qu'à Vitry, il y a une énorme vie associative. Il y a au moins 100, 110, 120 associations actives. Et je ne sais pas si vous avez un petit mot encore à dire. J'aimerais bien passer au roman noir, traditionnellement. C'est ce que je fais dans l'émission. On peut passer ? Ouais, vas-y, je t'écoute.
Moi, je voudrais juste rajouter ce qui n'est pas dans mon livre, mais je le dis quand même. On est des gilets jaunes. On n'est pas mort, on est toujours là, on est existant, que ce soit dans les trucs associatifs ou autres. Et le combat continuera. Et tant qu'il y aura des gilets jaunes dans la rue, ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à remettre en place le social. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et car le capitaliste nous a tout cassé. Tout, que ce soit le service public ou le social, tout ça, il n'y en a plus. Moi, je vois souvent des gens dans mon habiterie, ils n'ont plus le sourire. On n'a plus la joie d'avant. Il faut la retrouver, cette joie. Donc, nous, on est là pour le combat et on ne lâche rien. On sera toujours là.
C'est une belle conclusion, je trouve.
Et puis, je rajouterai une petite phrase tirée du livre, parce qu'on voit moins de gilets jaunes. Et dans le livre, on dit « Aujourd'hui, ces invisibles ont disparu. Pourtant, ils sont là quelque part et leurs besoins n'ont pas changé. Mmh. » Alors, moi, j'avais prévu un livre qui s'appelle « Colère jaune » de Jérémy Bouquin. C'est un bouquin que j'avais acheté au Festival 2022. Donc, l'héroïne, c'est une maman isolée qui fait des petits boulots au black et qui rejoint les ronds-points. Très bien, c'est très documenté. Et puis, je lis le livre, j'attends l'intrigue. En fait, il n'y en a pas. C'est une tranche de vie très renseignée sur une femme qui rejoint les ronds-points avec des extraits d'articles de presse, même l'extrait d'une intervention du président à l'époque. Donc, c'est peut-être plus un roman policier, mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien. Et Jeanne, tu es romancière, tu es aussi éditrice, et je crois que tu connais Jérémy Bouquin.
Ah, on a eu la chance de rencontrer Jérémy à ses tout débuts, au moment où il cherchait à se faire éditer. Et comme il a une écriture très particulière, et qu'il faut bien le dire, le monde éditorial est d'une frilosité absolue. Une fois sorti des Mussolévi, c'est quand même difficile de se faire éditer pour un jeune auteur. Et c'est un personnage passionnant, Jérémy. Il est responsable dans l'éducation pour les jeunes. Et il a une écriture. Moi, ce qui m'a... Quand j'ai lu ses premières propositions, on a dû les travailler beaucoup parce qu'il écrit comme un forcené. Il écrit tout le temps. Il ne se relit pas toujours. Mais il y a justement une force tripale dans ce qu'il écrit, extraordinaire, et dans son rythme, dans le choix des mots, dans sa présentation des personnages, il ne s'interdit rien. Et donc, on a beaucoup travaillé ensemble, et je suis contente de voir qu'en ce moment, Jérémy est en train d'émerger, on le voit dans les festivals, il commence à être apprécié, et c'est bien parce que c'est un homme qui a toujours eu l'œil sur les plus défavorisés, lui aussi, et qui est d'une très grande humanité, vraiment. J'aime beaucoup son regard.
Tu nous parles de Ska éditeur ou pas?
Ah, Ska. Ben, Ska, c'est une folie dinguerie totale. Avec mon acolyte aigu Max Obion, on avait monté une maison papier qui s'appelait Krakoen, une maison d'édition. Et puis, toutes les contraintes matérielles liées à la gestion du livre papier nous ont refroidi assez régulièrement, mais on continue à avoir la passion de la chose écrite et de l'édition, et donc on s'est dit on va passer par-dessus les contraintes de stockage, de facturation, etc., mais en continuant d'éditer, donc en numérique. Et donc Ska, ce sont des collections dont le phare, c'est la collection qu'on appelle Noirceur. Il y a une collection érotique aussi, qui marche pas mal, mais qui est exclusivement numérique, et ce sont des textes courts. Et les textes courts en France, ils n'ont pas une cote extraordinaire, au contraire des anglo-saxons. Donc on édite des nouvelles, une cinquantaine par an à peu près, ce qui fait déjà un bon gros boulot, qui sont toutes accessibles pour tous les gens qui ont une façon de lire en électronique, que ce soit un téléphone, une liseuse, voilà. Donc c'est une belle aventure.
Alors Max Obion, nous on avait projeté de ses courts-métrages au premier festival, on peut encore les trouver sur le tube, et toi-même je crois que tu es en train de tourner
avec
des
lui, puisqu'on est toujours en train de faire nos bêtises ensemble, on est deux vieux gamins, on a tourné successivement la semaine dernière un nouveau court-métrage pour Max qui s'appelle Louise, l'histoire d'une sexagénaire qui part à la découverte du rendez-vous qu'elle a pris en ligne avec elle espère un beau gosse, qui tombe sur un vieux punk à chien capuchien. Et moi, je co-réalise avec lui À partir d'une nouvelle dont j'ai écrit l'adaptation, une histoire très noire de famille. Je peux pas vous raconter toute l'histoire parce que sinon vous n'auriez plus envie de la voir, mais où il y a une jeune fille entre deux parents abominables qu'on retrouve un jour mort dans leur lit. Voilà.
Alors moi je voulais parler d'un de tes livres aussi, Poubert Girls. Et là, c'est très drôle parce que j'ai eu l'impression de lire le prélude à Colère jaune. Donc, ça ne parle que de femmes. Il y a Blanche, employée de banque, qui veut tuer son compte de mari. Il y a Paloma, SDF, qui a un passé de bandit. Il y a Elisabeth, le personnage principal, une mère isolée en fin de droit. Et là, je tenais à dire un truc. J'ai sorti des stats de 2020 parce que là, on a parlé de personnes en difficulté dans les romans aussi. En fait, en 2020, on avait 25% des familles en France qui étaient des familles monoparentales. C'est-à-dire, je cite, soit 2 millions de familles où les enfants résident avec un seul parent, son conjoint cohabitant, avec 1,8 enfants en moyenne. Donc ça fait 3,6 millions d'enfants qui vivent dans des familles monoparentales. Et avec des soucis où les familles monoparentales vivent plus fréquemment dans un logement surpeuplé. Donc en français, ça veut dire une maman isolée, un enfant, c'est un studio. Une maman isolée avec deux enfants, c'est un deux pièces. C'est souvent ça. Et aussi, elles sont plus fréquemment que les autres familles dans un logement social, puisqu'elles représentent 37%.
Elles sont aussi plus fréquemment surendettées. Elles sont aussi plus fréquemment en mauvaise santé. Voilà, c'est une réalité sociale qui n'intéresse pas énormément. Hein. On n'en entend pas beaucoup. Tu as trouvé des statistiques parce que tu les as cherchées. Le sort de ces femmes, ça rejoint les invisibles dont parle Véron. Hein, ce sont elles qui ont des boulots avec des coupures, enfin qui vont faire du ménage dans des bureaux et qui y retournent le soir. Donc il y avait ces femmes-là, il y avait ma Paloma qui était tombée depuis peu à la rue, ses repos, mais qui était au contraire de la maman, qui est un peu une petite souris grise. Paloma, c'est un peu un oiseau des îles, avec toujours beaucoup de fantaisie, beaucoup de hargne, de colère. C'est une Véro en quelque sorte, Paloma finalement. Et puis, il y avait en contrepoint cette bourgeoise bien installée dans la vie, un peu psychotique, qui ne rêve que d'assassiner son mari. Et ma petite Elisabeth, là, qui rame, qui galère, il va y avoir une belle histoire d'amitié avec Paloma, mais cette amitié va les entraîner très loin, parce qu'un jour, une galère de trop, elles en ont marre, et c'est pas un gilet jaune qu'elles prennent, c'est un flingue, quoi, voilà. Donc je recommande pas forcément à toutes les femmes en galère de sortir un flingue, mais ça fait du bien de temps en temps.
Oui. Et le sous-titre de ton livre, c'est roman policier, mais pas que. Enfin, nous, on est d'accord que nous, ce qui nous intéresse, c'est le roman noir. Le roman noir, social. C'est le polar qui a une base dans un contexte social, historique, humain, et c'est moi tout ce qui m'intéresse. Alors. Il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup pour cette émission. Bravo pour ce livre.
Remercions.
Et alors, j'en profite pour dire que la prochaine émission portera sur... Je vais faire une histoire du polar américain. Oh. Et à force de travailler dessus, en fait, je vais parler des femmes, ça va représenter 20% du truc, parce que je me suis chronométré, il y en a au moins pour 20 minutes. Alors, c'est autre chose, c'est plutôt sur les stéréotypes sexistes diffusés par le roman noir en général. Le polar en général, et plus encore dans les fillers. Moi, je suis pas amateur de fillers, mais moi, c'est à préparer cette future émission. Ça m'a permis d'évoluer aussi un petit peu, de voir un peu les choses différemment. Et puis voilà. Mais écoutez, encore un gros merci. Et puis je vais lancer une musique. J'ai choisi Lucide Bossonge.
Merci à toi.
Merci.
Alors, ça ne marche pas, je vais réessayer, je suis désolé.
Tu veux qu'on chante à la place ?
Ah, chantez, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bon, écoutez, il y aura pas de musique aujourd'hui.
D'un avenir qui change de cité, Laurent aussi a ses soucis. À rouler comme des chiens moqueurs dans des ruelles interdites, avec des cheveux qui n'ont plus de couleur et des désirs violents de gris. Et dans son lit, et la mort à 7 heures se passe.
Chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines. sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre